RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est la troisième heure des GG, la troisième heure des grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, et Charles Consigny, l'avocat. On terminera l'émission tout à l'heure à midi moins 20 avec Michel Drucker. Pourquoi Michel Drucker, 83 ans, il rempile pour une dernière saison.
C'est sûr que ça sera la dernière.
À partir de septembre prochain avec Vivement Dimanche, c'est sa 62e année à la télévision.
Michel, je savais même pas qu'il continuait, moi.
Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il a toujours son public? Ou est-ce qu'au contraire, on va dire, Michel, place aux jeunes, place à des nouveaux programmes? Venez en discuter tout à l'heure, à midi moins 20 avec nous.
À midi, hein.
Comment?
C'est le dimanche après-midi.
Bah justement, ça peut être l'occasion, le dimanche après-midi, de tenter des choses, de mettre des concepts, des jeunes, de regarder comment ça marche. Vous venez en discuter avec nous tout à l'heure, à midi moins 20. En attendant, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est le professeur Adnet qui est avec nous, le professeur Frédéric Adnet, chef du SAMU de Paris. Bonjour professeur.
Bonjour.
La canicule est terminée, mais la crise sanitaire continue ?
Oui, dans toute canicule, il est classique d'avoir un effet, ce qu'on appelle un effet rebond. Hein. Les organismes sont fatigués, les différents organes vitaux comme le rein, le foie, le poumon... ont encaissé des chaleurs extrêmes et on assiste maintenant non plus aux coups de chaleur qui sont des pathologies pendant la canicule, mais malheureusement à ce qu'on appelle nous dans notre jargon des décompensations qui peuvent être des maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, mais aussi sur des organes un petit peu fragilisés, l'apparition de d'insuffisance de système, un respiratoire, rénal ou cardiaque.
Vous êtes beaucoup intervenu ce week-end avec le SAMU ou pas? Enfin, sur les 4-5 derniers jours.
Bah, écoutez, le pic est dépassé. Hein. On a eu réellement un pic d'activité il y a 3 jours en pleine canicule. Et actuellement, on est dans un plateau qui est encore très élevé, qu'on arrive un peu à maîtriser avec nos renforts à la fois de personnel et de moyens. Et on est, si vous voulez, sur un plateau descendant actuellement, avec une descente progressive du nombre d'interventions, du nombre d'appels et du nombre de patients que l'on prend en charge.
Quel est le type de patient? Il y a un profil type?
Oui, il y a un profil type sur les épisodes de canicule. Alors malheureusement, à cause de mon âge, j'ai vécu la fameuse canicule de 2003. Donc j'ai, si vous voulez, des repères. Si vous voulez, dans l'activité de SAMU qui vise à prendre en charge les urgences vitales, il y a deux types hein, d'urgences vitales pendant la canicule. Il y a la plus gravissime, hein, ce qu'on appelle les coups de chaleur. C'est-à-dire que l'organisme rentre en hyperthermie et on n'arrive pas à arrêter cette hyperthermie. La température grimpe jusqu'à des valeurs incroyables, hein, qui peuvent aller jusqu'à 43 degrés.
Température du corps?
Du corps, oui.
43 degrés.
Température centrale, on ne peut pas vivre à 44 degrés. Hein. Donc, il y a une limite supérieure. Donc, c'est entre 43 et 44.
Et qu'est-ce que vous faites là, dans ce cas-là?
Alors je vais venir. Oui. Et la deuxième type de pathologie, c'est les malaises, c'est les déshydratations. Et là, on a un changement de type de patient, qui est ce que je vous disais au début, des décompensations de maladies chroniques. Alors, la canicule 2003 nous a appris beaucoup de choses, et c'est probablement pour ça aussi, c'est une des causes sur lesquelles on voit une mortalité probablement plus faible qu'en 2003, alors que la chaleur était à peu près la même. C'est qu'on a appris à prendre en charge très précocement ces patients. Donc les recommandations internationales, les études nous montrent que il faut refroidir le patient le plus rapidement possible et le plus tôt possible. Donc refroidissement rapide et le plus précoce possible.
C'est-à-dire qu'on plonge le corps dans de l'eau froide.
Et la meilleure technique d'évacuation de la chaleur du corps, c'est par conduction. On met un corps froid au contact avec le corps. Et ce corps froid, c'est une baignoire remplie d'eau à une température autour de 3 degrés qu'on maintient avec des glaçons. Donc on amène des baignoires au domicile du patient.
Ah bon ?
Sur la voie publique, oui, tout à fait. Là où ils sont où ils sont pas bien.
Et vous plongez le corps donc pendant combien de temps ?
On plonge le corps. Voilà, c'est une idée.
Il y a pas un risque de choc thermique ?
Eh ben justement, c'est ce qu'on pouvait craindre, mais les études montrent que plus rapidement on fait diminuer la température, donc on crée ce choc thermique, hein, meilleur est le pronostic. Et on voit réellement les patients s'améliorer sous nos yeux.
Alors, je comprends,
dans les baignoires.
Je comprends rien. parce qu'on nous dit que quand on a très chaud, faut pas se baigner parce qu'on risque
qu'on nous emmerdait quand on était enfant.
On risque qu'on ait hydrocution. Et il a raison. Dieu sait qu'on nous emmerdait quand on était gamin.
Mets-toi de l'eau derrière la nuque.
Mais et là, vous nous dites, allez, bim, on plonge le corps.
Alors deux grandes différences avec l'hydrocution, c'est que vous êtes pas en hyperthermie quand vous plongez la petite.
Bien sûr.
La deuxième grande différence, c'est que je crois que dans une baignoire, on a pied. Hein, alors.
Voilà. C'est pas
on va dans une piscine, on a papier, on peut couler. Et puis il y a un entourage médical. Non, il faut réellement plonger le corps dans de l'eau froide. La température s'évacue très rapidement, très rapidement. Le patient est monitoré, c'est-à-dire qu'on regarde sa température constamment avec des appareils spéciaux. On regarde sa tension artérielle, on regarde sa conscience. Évidemment, il ne faut pas qu'il s'aggrave, mais en général, et c'est réel, un vrai progrès en médecine. On les voit s'améliorer dans la baignoire.
Ça veut dire qu'on a donc tiré les leçons de 2003 dans la façon d'intervenir. Il y aura donc moins de morts. Pour l'instant, on dit plus de 1000 morts. Mais c'est un chiffre encore provisoire. Le bilan sera moins terrible.
Écoutez, j'ai pas les derniers chiffres, et vous savez que la surmortalité s'analyse toujours à distance. Hein. Il faut consolider les chiffres de mortalité. Et c'est les statisticiens, les épidémiologistes qui sont mieux outillés que moi pour vous faire un vrai bilan. Mais la sensation que j'ai pour avoir vécu les deux phénomènes 2003 et 2026, c'est qu'il y aura probablement moins de morts. Alors pourquoi? Ben moi je vois bien au SAMU en 2003, on avait une mortalité effroyable, rappelez-vous, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Là, il y en a, mais beaucoup moins. C'est l'impression que j'ai quand j'interviens et que je fais intervenir mes équipes, beaucoup moins dans ces institutions. La deuxième chose, c'est que en 2003, on était complètement surpris. Moi, j'ai découvert le coup de chaleur en 2003. Hein. Là, on sait parfaitement ce que c'est. Et surtout, la population est avertie. Il y a eu des messages de prévention. Mmh. Alors qu'en 2003, on n'avait pas eu le temps de faire des messages de prévention. Donc tout ça... La meilleure prise en charge des institutions de personnes âgées où il y a des pièces climatisées et des messages de prévention, je pense qu'on rend un impact majeur sur la diminution malheureusement, de cette surmortalité.
Alors, mes chers Gégé, Emmanuel Devilliers, Charles Consigny, Joël Dagosséry.
Joël?
Oui, professeur, j'ai deux questions. Justement, pour parler de la population qui est avertie, est-ce qu'on assiste encore à des actes irresponsables en ces périodes de calamité, beaucoup moins qu'en 2003? Et ma deuxième question, c'est sur les moyens d'intervention. J'ai regardé un peu ce qui se fait en Arizona, Texas, etc. Et les États-Unis, lorsqu'il y a vraiment une grosse canicule, ils font même débarquer, ils ont une opération un peu militaire, enfin un comportement un peu militaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent, sur des grands parkings, etc., installer des sortes de camions réfrigérés. Enfin, ils font venir, en tout cas, les moyens d'intervention, enfin médicaux, un peu sur place. Enfin, ils les rapprochent de la population. Est-ce que ce sont des choses que nous, on a déjà fait ou qu'on peut faire?
Alors, sur les comportements, on va dire inadaptés, oui, malheureusement, oui. On est encore intervenu sur un jogger qui fait son jogging en plein à 2h de l'après-midi et qui a fait un coup de chaleur.
Et vous le faites payer un peu ?
Non, on fait pas payer les malades.
Je rebondis là-dessus. C'est comme les types à qui on dit n'allez pas faire du hors-piste, il y a un risque d'avalanche et qu'on est obligé d'aller chercher au risque de la vie des secouristes. On leur fait payer aujourd'hui l'intervention. Moi, ça me choquerait pas, pardon, hein, sachant qu'en plus on manque d'argent, que le type qui a fait du jogging à 15h, ça fait une semaine qu'on lui dit pas en faire, qu'il paye quelque chose. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les grandes gueules, mais
non.
Ah voilà. Bon, très bien.
On punit pas les malades.
Quand on s'est rendu lieu, les imbéciles ou malades.
Oui, non, mais on pourrait étendre ça sur les fumeurs, etc. Donc,
le fumeur, on taxe sa consommation, donc c'est une façon de le faire payer.
Non, en France, on a la chance d'avoir une sécurité sociale et d'avoir des soins gratuits.
Oui, mais justement, est-ce que ça ne déresponsabilise pas
avec le
SAMU. On dit, de toute façon, je serai soigné.
Dans les comportements déviants, notre job et notre éthique.
Et vous êtes là pour soigner.
Le problème est un problème sociétal et là, ce n'est pas à nous de trancher. Après les centres faire des regroupements de patients, et c'est une très bonne idée dans des zones climatisées, ça, c'est dans les conseils, hein. On conseille aux personnes d'aller dans la salle de cinéma, d'aller dans une grande surface, d'aller dans les endroits où il y a des endroits climatisés. Et d'ailleurs, dans le plan canicule, hein, de niveau 3, les mairies sont censées faire un recensement des zones climatisées et d'adresser ça aux EHPAD et aux maisons de retraite pour pouvoir amener ces patients vers ces zones justement climatisées.
Non. Alors, vas-y, Emmanuel.
Le professeur Adnet, les Français vous connaissent bien. Vous avez un peu une gueule d'acteur, un peu Philippe Léotard avec un zeste de Jean Gabin. On se souvient que c'est vous qui avez accueilli le nouveau Premier ministre Michel Barnier dans sa première sortie. Vous étiez là déambulé dans un hangar. Tiens, regardez, Monsieur le Premier ministre, on a une camionnette là, voilà, c'est comme ça. Hein. Et les Français, encore une fois, vous apprécient dans votre sérieux et dans votre dignité, parce que vos fonctions sont éminemment graves. Ce dont on se rend compte, semble-t-il, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'un tout petit peu d'activité supplémentaire hospitalière fait qu'on ne peut pas la digérer. Il y a plus de place en prison, il y a plus de place dans les morgues. C'est pas le moment de passer l'arme à gauche.
Alors,
c'est pas le moment de tomber malade.
Alors, est-ce que bon,
il y a plus de place dans les hôpitaux là.
Le système hospitalier a répondu avec ses plans de crise. Hein, et je vous apprends pas qu'on est en plan blanc. Plan blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un peu comme avec le Covid, hein. On déprogramme les patients les moins urgents pour essayer de les faire venir à l'hôpital un peu plus tard afin de pouvoir gérer le flux des patients entrant par les urgences qui vont nécessiter ces patients très fragiles qui sont pas en très bon état, qui vont nécessiter des hospitalisations assez longues. De plus, à la différence du Covid où là vraiment on était vraiment au point de rupture, là on a eu des renforts à la fois humains et matériels qui nous ont permis quand même de gérer cette inactivité très intense, mais à aucun moment je me suis senti comme malheureusement j'ai aussi vécu le Covid, comme avec le Covid où je me suis dit on risque de tout lâcher.
Donc l'hôpital n'a pas craqué.
On a pu avoir des moyens supplémentaires. Tout n'a pas été parfait, hein. Mais j'ai l'impression que cette crise, on a pu la gérer sans donner des pertes de chance aux patients.
Oui, mais docteur, moi j'ai entendu des témoignages avec des chambres, des patients qui avaient 35 degrés dans leur chambre. Je me dis, pardon, ce sont des malades. On les met en danger.
Alors, je vous parlais de la prise en charge des malades, hein. Donc on a donné les soins appropriés, on a pris en charge les malades. Après, et ça vous avez complètement raison, et je pense que nos tutelles s'en sont aperçues, il y a un vrai problème de plan de climatisation des hôpitaux publics en France.
Vous êtes d'accord avec ça? Il faut un plan clim.
Il faut un plan clim national, et je crois que ça
commence. Pourquoi on l'a pas enclenché, alors que les responsables politiques ne cessent de nous dire, les canicules vont se répéter, il faut s'y habituer, ça va se banaliser. Donc il y a un double discours, et finalement, sur le terrain, il se passe rien.
Là, j'ai l'impression quand même que, cette canicule a secoué nos tutelles, puisque déjà on reçoit beaucoup de climatiseurs.
Ah, ça y est, vous avez commencé à recevoir.
À les recevoir en grand nombre. Et je pense qu'il y a une réunion interministérielle aujourd'hui.
Vous les recevez une fois que la vague de chaleur est passée.
Enfin, oui, bon. Mais une autre qui va arriver.
Alors voilà, finalement, ça va sauver le corps nu, c'est une troisième vague arrive.
Donc j'ai quand même, je suis pas aux commandes, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'ils en ont pris conscience et qu'on va.
Donc il faut en France toujours des crises pour se rendre compte à chaque fois qu'il nous manque.
Ouais, je pense pas que ce soit spécifique à la France.
Non, mais mais on dit toujours gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire qu'on attend qu'on soit dans le dur pour se dire tiens.
Moi, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont eu de l'effet après la canicule de 2003. Hein, ça a été les chambres climatisées obligatoires dans les institutions pour les personnes âgées. Ça a été les plans de prévention largement diffusés au niveau de la population française. Mmh. Et effectivement, un oublié, je dois le reconnaître, hein, un plan de climatisation massif des hôpitaux en France. Je crois que d'après les échos que j'ai, nos tutelles l'ont pris en compte. Et que la réunion de cet après-midi va probablement déclencher des crédits pour pouvoir acheter ces climatiseurs sans attendre une nouvelle canicule.
Charles Consigny.
Si vous connaissez un peu ce qui se pratique à l'étranger, est-ce que vous diriez que la France, sur le plan de la lutte contre la canicule, et de façon générale son système de santé, mais notamment sur ce sujet, est-ce que vous trouvez qu'on est... très en retard, très sous-équipé. On a entendu beaucoup de gens qui ont dit la France c'est un pays du tiers monde et qui sont choqués de voir à quel point on est sous-équipé, notamment parce qu'on met quand même beaucoup d'argent dans tous ces systèmes, ne serait-ce que les 36 milliards d'euros que rapporte la fameuse journée travaillée du lundi de Pentecôte. Est-ce que de par ce que vous savez du système américain, allemand, que sais-je, est-ce que vous trouvez qu'on est quand même un peu à la ramasse?
Alors, J'ai travaillé dans les systèmes anglo-saxons, hein, les systèmes qu'on connaît, États-Unis, Angleterre. J'ai pu passer du temps là-bas. D'un point de vue technologique, d'un point de vue équipement, d'un point de vue procédure et protocole, on est complètement en phase avec ce qui se fait de mieux aux États-Unis ou en Europe. Au niveau de l'accueil des patients, de nos services d'urgence, on est vraiment dans la moyenne et on n'est pas du tout à la ramasse par rapport aux pays étrangers. Par contre, encore une fois, cette canicule nous a appris une chose, c'est qu'il nous manque, on a quelque chose qui nous manque réellement, c'est d'avoir loupé la climatisation massive des hôpitaux. Bon, ouais. Ça, maintenant, je crois que tout le monde le sait.
Oui, mais enfin, il y a des nouveaux hôpitaux qui sont construits, qui sont pas complètement climatisés. Alors là,
c'est ce que je viens de vous dire.
Oui, celui de Nantes, notamment, on a loupé.
Ça, c'est de l'argent.
On l'a loupé. Pourquoi? Parce que les médecins le demandaient. Moi, je me souviens, c'est un débat qui est vu. Pourquoi? Par idéologie politique? C'est pourquoi?
Il faut demander à notre.
Non, je sais bien, mais quand vous faites.
Mais peut-être qu'on l'a pas demandé assez fort. Peut-être que vous savez, les crises, on les oublie très vite.
Ouais.
Il y a eu des très bonnes mesures faites après 2003. J'en suis témoin et j'ai vu la différence avec ce qu'on fait actuellement. On a loupé la climatisation massive des hôpitaux, ça, je suis obligé de le reconnaître.
Tout
le monde le réclame, en particulier la direction de la PHP. Donc, je pense que ça va percuter. Hein.
Joël, professeur, on s'est autoproclamé meilleur système de santé au monde, quasiment. Est-ce que c'est vrai réellement, puisque vous avez travaillé à l'étranger, donc est-ce que réellement nous sommes le meilleur système de santé au monde, et si ce n'est pas vrai, alors qu'est-ce qui nous manque et quel est selon vous le meilleur système de santé? Parce que moi, je commence à ne plus y croire. Je fréquente les hôpitaux et des grands hôpitaux comme Georges Pompidou, qui est un hôpital européen, et où on attend 6 heures, 8 heures. Enfin, j'ai attendu aux urgences. On m'a dit vous avez 8 heures d'attente alors que j'avais une occlusion intestinale. Donc c'était pas comme si c'était pas urgent. Vous voyez? Donc est-ce qu'on est réellement dans le meilleur système de santé au monde?
Vous allez au Canada ou en Angleterre, vous pouvez attendre 12 heures sans que ça choque personne. Ça dépend ce que vous définissez comme le meilleur système.
On a la meilleure médecine.
Alors, il y a le niveau système de médecine, mais moi, je mets dans mes critères de meilleur système de santé un système qui est éthique et qui donne, si vous voulez, le meilleur soin à la population, quel que soit son niveau social, son origine, etc. Et là-dessus, je pense qu'on est effectivement dans les meilleurs. Comme vous dites, j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai bien vu l'inégalité face aux soins par rapport au niveau social, par rapport au fait qu'il y ait une assurance. On a un système quand même qui est gratuit.
Oui, mais est-ce que cette inégalité n'est pas en train de se mettre en place? Pardon, est-ce qu'il n'y a pas quand même un système à double vitesse? Quand on connaît un professeur de médecine, quand on est reçu plus rapidement, on aura un diagnostic plus vite. Quand on ne connaît pas, on est obligé de passer par un système qui est un peu engorgé.
C'est ce que je considère comme des dérives, mais ce n'est pas le système en lui.
Mais est-ce que ça ne se met pas en place?
C'est ce qui est en place dans la majorité des systèmes de santé. Dans le nôtre, on peut le critiquer par piston, arriver à prendre un rendez-vous plus rapide, mais si vous voulez, c'est une dérive par rapport à un système qui dans ses racines est un système foncièrement égalitaire. Quand je pars en SAMU, je procure les mêmes soins au coup de chaleur d'un SDF ou d'un propriétaire d'un appartement dans le 16e arrondissement, ils ont exactement le même niveau de soins. Et ça, on le retrouve pas ailleurs. Hein, vraiment, on le retrouve pas ailleurs. Et je l'ai vécu. Donc, au niveau technique, on est la médecine occidentale et on a les dernières recommandations. Et je fais de la recherche. On est vraiment dans les meilleurs soins. Au niveau de l'égalité par rapport aux soins, je pense qu'on est effectivement dans les meilleurs.
Merci, professeur Anet, d'être venu faire un bilan de la canicule. Le plan climat à l'hôpital, il manque, mais ça se met en place. Les climatiseurs sont en train d'arriver. Merci d'avoir été avec nous, professeur Anet. Dans un instant, une étude avec vous. Les conducteurs sans assurance, ils ont fait 7500 victimes l'an dernier. S'il y a bien quelque chose qui perdure en France, c'est la conduite sans assurance. Pourquoi? Je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de nous écouter en disant « Bah ouais, ben moi je conduis sans assurance ». Mais ça, c'est malheureusement aussi à vos risques et périls, et surtout à celui au risque et péril de la personne que vous percutez. Venez en discuter avec nous au 32-16, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 11h25, attention, attention, attention. Top inscription maintenant pour la prime de match. C'est parti. Et la somme est conséquente. 77 500 euros à gagner à l'occasion de cette Coupe du Monde de foot dont RMC est la radio officielle. 77 500. Il est 11h26. Je vous donne le top départ pour 10 minutes pour envoyer but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. Dans la journée d'ici 20h, un coup de fil à l'un d'entre vous qui sera tiré au sort. Et il faut donner la prime de match, les 77 500 euros. Gardez bien votre téléphone, ça peut tomber à tout moment d'ici la fin des GG chez Estelle Denis, chez Moscato, chez Rotten, d'ici 20h. Si vous donnez la somme, la somme exacte, 77 500, elle est pour vous exonérée d'impôt puisque c'est du gain de jeu. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, but par SMS au 732-16. On va avoir un petit sujet de discussion maintenant sur tous ceux qui roulent sans assurance. Ils sont de plus en plus nombreux. Le fonds de garantie, justement, des assurances obligatoires de dommages, qui prend en charge depuis 70 ans les victimes de ceux qui n'ont pas d'assurance, a versé 132 millions d'euros l'an dernier aux victimes. Et malheureusement, le phénomène de ceux qui conduisent sans assurance, il touche essentiellement les jeunes.
Oui, près de 7500 victimes de conducteurs sans assurance l'an dernier. Alors ce fonds, tu as donné à ce chiffre 132 millions d'euros, c'est nous qui payons, hein. Ce sont les assurés hein, qui abondent ce fonds qui a été mis en place en 1951. Et ensuite, le fonds va se retourner contre les responsables des accidents qui ont roulé sans assurance. Le plus souvent, ce sont des jeunes, voilà ce que nous dit le fonds, avec peu ou pas de ressources et qui donc, faute de moyens, n'ont pas souscrit d'assurance automobile. Alors les conséquences sont désastreuses pour les auteurs parce que ils vont rembourser des centaines de milliers, voire des millions d'euros de dommages corporels et donc des jeunes qui vont être endettés à vie. C'est-à-dire qu'on va aller, on va pas les lâcher. Et toute leur vie, ils devront rembourser. Donc c'est problématique, c'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors, il y a deux explications. Ça coûte trop cher de passer le permis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui roulent sans permis. Et puis il y a aussi la facilité à perdre ses points sur la route et donc à se retrouver sans permis. Et il y a des gens qui ont besoin de la bagnole, c'est vital, et qui se disent, bon bah tant pis, je roule, j'ai pas le temps de repasser le permis, je le ferai. Et donc je prends le risque. Je rappelle que rouler sans permis, sans assurance, c'est 750 euros d'amende.
Et assurer son véhicule en responsabilité civile, c'est-à-dire pour les dommages que tu causes aux autres, c'est une obligation légale. Oui. Et ce que dit le fonds de garantie des assurances, tu sais, qu'est-ce qui est en augmentation quand on regarde précisément ? Les accidents de trottinettes non assurées, plus 8%. Donc 32-16 pour en parler avec les GG. Joël ?
Je me sens visée quand tu as parlé de trottinette.
Pourquoi tu roules en trottinette?
Ah oui, je fais de la trottinette.
Tu en as une?
J'en ai une.
Ah mais ça, on savait pas.
À toi?
Ah oui, à moi, oui, tout à fait.
Qui est assurée, j'imagine.
Oh, pas vraiment.
Voilà. Nous avons une délinquante.
Oui, mais tu n'as pas une assurance civile, de toute manière.
J'ai une assurance civile, c'est
ça. Oui, voilà, donc qui rentre.
Mais je n'ai pas assuré.
Est-ce qu'elle prend en jeu, est-ce qu'elle prend en compte ta trottinette et.
Je me renseignerai pour
mieux. Si ce n'est pas déclaré dans la police d'assurance, ce n'est pas pris en charge.
Ah, voilà. Bah, je vais. Donc. Je vais me renseigner, parce que j'en ai une, ma fille, elle en a une, bon, voilà.
Et si tu renverses un piéton?
Si je renverse un piéton, mais ce que je ne ferai jamais, bien sûr.
Bien sûr, tu es très prudente.
Très bonne conductrice. Non, mais écoute. Le fonds de garantie des victimes, il faut savoir qu'il est payé par nous.
Oui, c'est ça.
Voilà. Il est payé par nous. Je me souviens, j'avais passé un entretien pour ce fonds, parce qu'à l'époque, quand je faisais du contentieux, du recouvrement contentieux, et ils m'avaient expliqué leur fonctionnement, etc. Voilà, qu'il fallait ensuite recouvrer auprès des victimes et étaler une dette, comme tu l'as dit, sur des années et des années. Donc, moi, je pense sincèrement que le permis ne devrait pas coûter 2000 euros, comme il est actuellement, voire souvent même 3000 euros. Un permis de voiture, c'est 400, allez, 500 euros maximum. Si tu l'as raté, 700 à tout casser. Mais 1000 euros, déjà, on est trop. Enfin, les prix sont délirants, notamment parce qu'en plus, ce sont des jeunes qui cherchent à passer le permis. Enfin, un jeune, qu'est-ce que tu vas lui faire payer une facture de 3000 balles? Ensuite, il a des points. Ces points, bah, il va les perdre parce qu'il a fait un excès de vitesse ou bon, ce qui n'est pas conseillé, hein, d'accord? Et ben, quand il retombe, quand il retombe et qu'il a déjà payé 3 000 euros avec ses heures supplémentaires, machin, eh ben, je peux te dire, c'est compliqué pour lui d'aller se dire, tiens, bah, en plus d'assurance, en plus, machin. Ça devrait pas coûter autant de conduire, en France. C'est un accès à l'emploi, je rappelle, pour beaucoup de gens, notamment dans la ruralité, parce qu'on ne vit pas tous à Paris au pied d'un métro, d'accord ? C'est un accès à l'emploi, c'est un accès à la liberté, et ça devrait être beaucoup plus démocratisé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet.
Tu vois, pour une, par exemple, si tu as une voiture qui date un peu, je regardais pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de revenus, tu peux avoir des assurances à 12 à 18 euros par mois, par exemple, pour une Clio qui a 15 ans.
Mais non, mais pas quand tu es jeune permis.
Oui,
c'est ça. Ah, non, quand tu es jeune permis, c'est 150 euros par mois ton assurance. Mmh. Ah, ben, bien sûr. Bah, les premières années, l'assurance coûte très cher.
Ben oui.
Tout ça est une mafia organisée, cher Alain.
Toujours est-il que c'est très grave. En termes de conséquences potentielles de rouler sans permis, c'est très grave de la même manière de rouler sans assurance. C'est très grave aussi, par exemple, de boire avant de conduire, puisque même assuré, on n'est pas couvert par l'assurance. J'ai découvert ça assez récemment. Si on est relevé dans le cadre d'un accident avec de l'alcool, l'assurance ne prend pas en charge. On se retrouve dans la situation hors assurance.
Mais tu vois, effectivement, là, je viens de demander une espèce de devis, vive l'intelligence artificielle, puisque tu m'as dit jeune conducteur qui gagne le SMIC pour une voiture qui a 10 ou 15 ans, ça me propose une assurance de 45 à 78 euros par mois. Là, c'est, j'ai demandé à l'IA. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quand même, est-ce qu'il vaut mieux t'endetter toute ta vie en causant un accident?
Ah, bah oui, bien sûr. Tu connais la réponse.
Bah oui, mais
c'est pas là, l'arbitrage, il est pas là.
Mais,
parce que tu dis, j'aurais pas d'accident.
Non, l'arbitrage, tu calcules tes risques quand même.
Tu dis que t'auras pas d'accident, tu feras gaffe.
Normalement, ce que je comprends pas par contre, c'est que, par exemple, quand tu achètes une voiture, tu ne peux pas repartir avec tant qu'elle n'est pas assurée.
Oui.
Tu dois l'assurer.
Oui, mais après, tu renouvelles pas.
Tu renouvelles pas.
Ouais. Tu sais, tu dis, j'ai mon assureur au téléphone, il est en train de s'en occuper, il m'envoie le papier. Gwenaël, bonjour.
Une bagnole sur le bon coin,
je peux
venir de une voiture d'occasion.
Bonjour, Gwenaël. Est-ce que vous êtes assuré, vous, votre voiture? Oui.
Oui, oui. Mais j'ai été victime il y a un an d'un accident, le lendemain de mon anniversaire, ça fait plaisir. Un mec m'a poussé, je m'arrêtais au feu à l'orange, et en fait, la voiture derrière s'est pas arrêtée, elle m'a poussé sur à peu près 15 mètres. Alors, lui, il avait une 307. Break et moi j'avais une BM série 1 et il m'a laissé en plan, il a fait un délit de fuite, il m'a doublé, j'ai eu le temps de relever la plaque et le type de véhicule, donc j'ai porté plainte et tout. Ma voiture a été déclarée baffe parce qu'il m'a poussé tellement fort qu'il m'a déclenché le prétentionneur de ceinture de sécurité et le calculateur d'airbag. Donc ma voiture ayant 20 ans, elle a été déclarée baffe et j'ai porté plainte. Et l'assurance, en fait, m'a dit, on prend pas en charge parce que vous êtes au tiers.
Ah oui, vous n'aviez. Ah oui.
Donc,
vous n'aviez pas la responsabilité.
Ils ont recherché le conducteur. Le véhicule était. L'accident a eu lieu sur Amiens. Le véhicule était immatriculé dans le 95. En fait, il n'y a qu'une boîte aux lettres à l'adresse de la carte grise. Donc, ils ne peuvent pas se retourner sur le nom. La personne n'a jamais été chercher les courriers les recommandés. Ils en ont envoyé 3. Et ils sont revenus, la poste avait marqué pas de personne à l'adresse.
Et voilà. Mais Gwenaël, moi j'entends là tout ce qu'on dit, laisser les pauvres, ils n'ont pas les moyens de se... Bon, très bien, ça existe. Mais pardon, il y a des gens qui sont des délinquants et qui se comportent comme des délinquants. C'est pas parce que des délits de fuite. Les refus d'obtempérer, pourquoi c'est une explosion des refus d'obtempérer? La plupart c'est parce que ce sont des conducteurs sans assurance et qui ont pas...
Ou sans permis.
Et c'est des comportements délinquants. C'est pas seulement le pauvre gars qui a 18 ans, qui a pas pu passer son permis, vous comprenez que ça existe.
C'est essentiellement chez les jeunes, c'est pour ça.
Il y a des jeunes délinquants, pardon. On va trouver des trafiquants de drogue, on va trouver des dealers, des gens qui ont largement de quoi payer, mais qui n'ont pas envie, qui se disent rien à foutre. Moi, je suis hors la loi et de toute manière, je me ferai jamais choper avec ce sentiment d'impunité.
Mais Gwenaël, du coup, ça vous a coûté combien au total?
Alors, mon épave a été déclarée à 3 600 euros. L'assurance m'a juste donné, comme j'étais reconnue non responsable parce que j'avais un témoin, ils m'ont donné 900 euros, c'est-à-dire le montant de ma franchise. Et puis, bah, le reste, c'est pour ma pomme. J'ai dû emprunter de l'argent. Je suis en plein une maison, donc j'ai pas de gros salaire. J'avais pas le moyen d'acheter une voiture. Donc, j'ai emprunté la somme de mon épave parce que j'espérais être remboursé par le fonds de garantie d'aide aux victimes. Et puis, bah, là aussi, je l'ai eu dans le baba.
Et le type, on lui a jamais mis la main dessus.
Non. Et alors, le mec, la voiture était immatriculée au nom d'une société. Mais pas d'un particulier en plus. Ah. Et ils avaient le nom du gérant, enfin de la gérante. Donc ils ont tout. Et moi je me dis maintenant avec les Facebook machin et tout et les impôts et tout, ils ont pas réussi à retrouver le mec. Je trouve ça bizarre. Ouais. Et attendez, le pire c'est que j'ai porté plainte. J'ai jamais eu de nouvelles de ma plainte.
Ah bah ça.
Le 15 jours après ma plainte, il y a une dame du tribunal ou du commissariat de police qui m'a appelée pour me demander si j'avais été indemnisée de mon véhicule. Ben je lui dis non, je suis au tiers donc j'ai droit à rien. Ah, elle me dit d'accord. Bah, donc, dans ces cas-là, on maintient la plainte, sinon elle aurait été classée sans suite.
Ah oui, donc ça, oui, on se dit que ça ne vaut même pas la peine, quoi, en fait.
Et
c'est
l'assurance,
ça.
Ils se sont renseignés pour la plainte parce qu'on n'avait pas de nouvelles du commissariat de police. Ils ont envoyé la plainte dans le 95. Elle est revenue sur Amiens. Au jour d'aujourd'hui, la plainte, apparemment, elle est au tribunal de grande instance d'Amiens. Mais en fait, je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas si elle était classée sans suite, rien. Ça fait un an.
La justice
et
du quotidien.
Du coup, m'a dit bah, on ferme le dossier parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Et j'ai appelé le fonds. Du coup, c'est moi-même qui ai contacté le fonds de garantie parce que l'assurance ne voulait même pas le faire. Mmh. Et donc, pour l'instant, le fonds de garantie m'a versé une provision de 200 euros pour le corporel. Mais le fonds de garantie, quand je les ai appelés, je leur ai dit mais pourquoi vous ne prenez pas la voiture en charge ? Elle m'a dit parce qu'il n'y a personne au bout de la carte grise. Mais je lui ai dit aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a pour retrouver une personne, vous ne pouvez pas la retrouver. Tu dis avec un nom de société, il y a forcément un numéro SIRET, il y a forcément quelque chose derrière.
Ouais, et ça n'a pas donné suite, malheureusement.
Donc, moi, le conseil que je donne, maintenant, parce que j'ai changé d'assurance, et évidemment, je donne le nom, j'étais chez Direct Assurance, je suis partie, maintenant je suis à ma banque. Ne laissez jamais un véhicule au tiers, parce qu'en cas d'accident comme ça, avec un barre, vous n'êtes pas couvert, vous n'avez rien du tout. Il faut rester au tout risque. J'aurais été au tout risque, ils m'auraient remboursé mon épave.
Donc, merci
j'avais une voiture
Gwenaëlle.
En excellente qualité et en très bon état, et ben maintenant je me retrouve à rouler en Clio.
Gwenaëlle, merci de cet exemple qui va, je l'espère, parler à tout le monde. Et on n'a pas le temps, mais Thierry nous appelait à l'instant de Charente-Maritime pour nous dire, lui, il a roulé sous suspension de permis, il n'avait pas d'assurance, il est rentré dans quelqu'un, il a mis 10 ans à payer aussi derrière. Donc voilà, que ça fasse réfléchir correctement. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, lui c'est assurance tout risque depuis 60 ans, plus de 60 ans, Michel Drucker, vivement dimanche, ça continue à la rentrée prochaine, Michel Drucker, 83 ans.
Immortel.
Rempile, est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce qu'il devrait laisser la place, Michel Drucker ? Sa carrière, elle est faite. C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les GG. Il est midi moins 20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
C'est avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec Charles Consigny, Manuel Devilliers, avec Joël Dagosséry. On va terminer en parlant de Michel Drucker, 83 ans. Il rempile la saison prochaine, le parrain de tous les animateurs télé, le boss des boss. Est-ce que c'est sa 62e ou 63e saison ? C'est 64e saison, Michel Drucker. Chapeau, et là c'est vivement dimanche.
Cette émission vous a fait rêver, je l'espère. On va continuer de vous faire rêver avec ton canapé rouge pour la 64e saison. J'arrive pas à le croire. À la rentrée prochaine, je vais terminer par ma phrase fétiche. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues.
Exactement.
Alors,
on est bien d'accord.
Vive la vie, vivement demain, vivement dimanche. Et le 6 septembre, on dira vivement Céline Dion. Voilà.
Voilà.
Merci à toute l'équipe.
Michel Drucker rempile, que l'on salue d'ailleurs, parce qu'il était venu, il est venu deux fois dans les GG, dans les grandes gueules. Michel, alors là, faut reconnaître qu'au niveau record de longévité, chapeau l'artiste.
Il a démarré en 1964, il était commentateur sportif au départ, Michel, mais voilà, il démarre en 64, c'est sa première apparition dans le paysage audiovisuel français, et depuis, il a toujours été là, il a jamais lâché la rampe, il a été malade. C'est un rescapé. Il a 83 ans. Alors, est-ce qu'il devrait faire la place aux jeunes? Moi, je trouve ça bizarre. En fait, la place, tu la prends si elle est libre. Enfin, c'est à chacun aussi de se faire sa place. Il empêche aucun jeune animateur de se montrer, d'être bon et de se faire voir auprès d'un directeur des programmes. S'il est là, Michel Drucker, c'est parce qu'il sait toujours faire et qu'il a le métier et autres. Est-ce qu'il y a une limite d'âge à imposer à la télévision?
Joël Dagosséry.
Écoute, moi, déjà, avec Jean-Pierre Foucault, ils font partie, enfin, en tout cas, ils faisaient partie de mes animateurs préférés. Champs-Élysées, Sacrée Soirée, pour moi, c'était sacré.
T'es donc, pas toute jeune, hein?
Non, je suis pas toute jeune, non. Non, j'ai encore les génériques en tête et tout. Non, c'est vrai, ça a vraiment marqué mes soirées. Et en plus, comme j'ai pas beaucoup le droit de regarder la télévision, donc c'était les seuls trucs à peu près que j'ai le droit de regarder, donc c'était important pour moi. Mais depuis quelques années, même pour Jean-Pierre Foucault d'ailleurs qui fait Miss France, je trouve que ça commence à décliner en termes de présence. Voilà, mais c'est la vieillesse, hein, c'est normal. Monsieur Drucker, oui, il n'empêche personne de travailler, t'as raison. Il bosse beaucoup, j'imagine que c'est pour ça qu'il est là. Néanmoins, c'est pas à lui de se débrancher. Je trouve que c'est à la direction. C'est la direction, en fait, qui a une responsabilité de renouvellement de sa chaîne.
Pourquoi la direction le renouvelle?
Ah, mais parce que j'imagine qu'il a le bras long, que personne n'ose, quel que soit le directeur ou directrice en place, s'opposer à Michel Drucker. Voilà, je pense. Que fait Charles?
On n'entend pas bien.
Non, mais en tout état de cause, Drucker est le meilleur. Il devrait être classé monument historique. C'est un type extraordinaire. Moi, je le voyais débuter le dimanche soir en noir et blanc dans ses commentaires sportifs. Ensuite, il a été ce qu'on appelait le gendre idéal pendant plusieurs décennies dans l'esprit des familles françaises.
1920.
Bon, la question de son âge ne se pose pas. C'est un type pourri de talent. Et ne nous enlevez pas Michel Drucker en plus de tous les problèmes que nous avons. La seule réserve que j'introduirai, et elle est à son adresse, c'est que il a refusé toujours, pour des raisons d'ailleurs qu'il n'arrive pas à justifier, à expliquer, parce que ça tient plus la route, de recevoir parmi les politiques quelqu'un émanant du Rassemblement National. Dans le cadre de la prochaine élection, puisqu'il redémarre après c'est l'été, c'est quand même une difficulté puisque le Rassemblement National est d'ores et déjà à nouveau donné au deuxième tour. Donc il faut peut-être qu'il fasse un petit peu d'aggiornamento.
Mais là, je révise mon avis à ce que tu viens de dire, mais gardez-le. Je veux dire, s'il y en a encore un qui ne tend pas le canapé rouge, mais gardez ce monsieur Drucker.
Ah bah
finalement, Madame Ernotte, non, je n'ai rien dit.
Elle avait sorti Patrick Sébastien pour moins que ça, quand même, qui représentait les vieux mâles blancs de plus de 50 ans et qui faisait trois fois plus d'audience ou deux fois et demi plus d'audience que Michel, quoi. Charles Consigny.
Non, puis c'est quand même quelqu'un qui a vécu les deux guerres mondiales. Donc ça, c'est utile historiquement. Oui, bien sûr. La chute de Bonaparte, la construction du château de Versailles. L'indépendance des États-Unis.
Mm-hmm. Il avait reçu Benjamin Franklin et Lafayette, d'ailleurs, je me souviens très bien.
Souviens-toi, absolument. Ouais, ouais. Il a fait une interview
Staline.
Mythique de
Staline.
De Christophe Colomb, à l'époque, quand il revenait de.
Non, je vais dire, moi, il y a une chose qui m'embête. C'est quand tu vois les gens vieillir et être diminués à la télévision.
Oui, c'est ça.
Et avec tout le respect que j'ai pour Michel, on l'a reçu, on l'a croisé dans des salons du livre, on a passé de bons moments ensemble. Je trouve que la télévision, quand t'as
c'est
été...
C'est pas fait pour les vieux?
Ouais. Surtout quand tu commences à... Non, je te jure, moi, je le dis à titre personnel.
Pour toi.
Mais je sortirai avant d'être diminué. Ou si je dois avoir un accident...
Et Alain va annoncer qu'il arrête.
Non, mais si je dois avoir un accident physique... Si je dois avoir un accident physique ou si je me sens pas, j'ai pas envie que les téléspectateurs me voient avoir du mal à respirer.
Oui,
tu vois, avoir du mal
là, c'est pas
à respirer. C'est le cas de Michel. Et je trouve ça dommage parce que du coup, d'année en année, tu vois la personne décliner.
Ah, oui.
La télévision, c'est pas fait pour ça. La télévision, c'est pas pour te voir petit à petit t'éteindre comme une chandelle. Avec tout le respect que j'ai pour lui, pour sa carrière, il a tout fait.
Non, c'est une star. Il a
mais
sa
j'ai
place.
Pas dit que c'était pas une star.
Oui,
il a sa place en
oui,
tant
mais
que
alors
star.
C'est bizarre parce qu'en même temps, on voit des vieux rockers monter sur scène et on pourrait dire la même chose. C'est la même chose. Ou des vieux acteurs. continue avec à jouer au théâtre. Par exemple, Michel Bouquet, jusqu'à la fin de sa vie, est monté sur scène.
Mais regarde, Renaud, c'est gênant de le voir aujourd'hui. Oui,
parce que Renaud,
Sinatra, il chantait
oui,
faux.
Mais Renaud, parce qu'il est dans un état de santé.
Il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter.
C'est pas la même chose. Moi, je trouve que dans un monde qui vieillit.
C'est pas du jeunisme.
Dans un monde qui vieillit, je suis désolé, il faut montrer aussi le pit qu'il est. Et on peut pas avoir que des jeunes aux dents blanches de 25 ans.
Mais c'est pas ce que j'ai dit.
Il faut avoir tout.
Vivement Dimanche, c'est une émission de ma mère. Donc, je la regarde avec ma mère. Et je l'ai regardé quasiment tous les dimanches avec ma mère. Ma mère, elle aime bien un petit jeune, la Cyril Ferraud, qui parce qu'elle regarde tous les jeux. Elle enchaîne tous les jeux.
Toutes les mamies l'adorent.
Bah voilà.
Elle le voit en Gendre Idéal, elle aimerait que tu sois avec Cyril Ferraud.
C'est le nouveau Gendre Idéal.
Non, mais elle regarde toutes. Ma mère, elle aime tous les jeux télé, etc. Et lui, c'est vraiment monsieur jeu télé, voilà. Et donc, si on le remplaçait par André Drucker, par Cyril Ferraud, qui parle à cette population.
Il sera un jour remplacé.
Eh ben, ce sera très bien aussi.
Pourquoi pas avoir les deux? Moi, je trouve, ça m'inquiète, ce monde où on va écarter. Alors, on va mettre des limites d'âge. Et on veut voir que des jeunes, etc. Mais non. En plus, on a besoin de gens qui ont une expérience, qui ont la culture. Par exemple, Alain Duhamel, on pourrait dire la même chose d'Alain Duhamel, qui continue à faire des plateaux. Je suis désolé, le savoir d'Alain Duhamel, les références, etc. C'est utile à côté d'un jeune journaliste politique qui arrive.
Tu déformes mes propos. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'aujourd'hui.
Dans ce cas, Mick Jagger, il faut qu'il arrête alors.
Ah ben, il est en meilleure forme que Michel Drucker. Il suffit d'entendre sa voix et son album. La voix n'est pas diminuée, celle de Michel.
C'est comme un grand vin. À quoi reconnaît-on un vrai grand vin? C'est qu'il est bon tout au long de sa vie. Merci Michel.
Ben voyez, Michel. Il a fait le débat, midi moins 10. On se retrouve demain entre 9h et midi. Estelle Denis est avec nous. Bonjour ma chère Estelle. Bienvenue pour 3 heures de discussion et débat. Et peut-être le coup de fil pour la prime de match.
Et je l'espère.
De 77 500 euros. C'est avant 20h. Ça n'a pas été dans les GG. J'aurais bien aimé qu'on la fasse gagner dans les grands.
Je ne sais pas quand on appelle les gens en fait.
D'ici 20h.
Une fois, on a appelé quelqu'un qui n'avait pas le bon montant. Depuis, on n'est plus jamais chez nous.
Il m'a raccroché au nez. Donc, il a vu numéro masqué. Bim. Allez, terminé. J'ai laissé un petit message pour lui dire qu'à l'époque, il avait quand même raté 58 000 euros.
Mais est-ce que quelqu'un a gagné déjà ce jeu?
Oui. Chez Moscato. Chez Moscato. 67 500. Alors, vas-y.
Alors, les conséquences de la canicule. Hôpitaux, écoles, est-ce qu'on doit créer une deuxième journée de solidarité? On voit qu'en tout cas, les 40 milliards qu'on a mis pour les EHPAD, écoutez, ça a marché.
Ah bon?
Les EHPAD sont climatisés. Maintenant, reste à financer la clim dans les hôpitaux et les écoles. Est-ce qu'il faut supprimer un deuxième jour férié?
Il faut rappeler Raffarin avec son gyrophare.
Oui, écoutez, peut-être. En tout cas, c'est la question qu'on vous posera dans un instant dans Estelle Midi. On parlera de cette nouvelle vague de chaleur prévue dès le 6 juillet. On a à peine le temps de se remettre de celle de la semaine dernière. Est-ce que vous êtes inquiet? On s'intéressera également aux jeunes qui suppriment le que dans leur phrase. Je trouve, il fait chaud.
Ah bon?
Je crois que ça va le faire.
Oh voilà.
Est-ce que vous êtes pour ou contre?
Et oui, il faut Michel Drucker. Voilà.
Bah, oui, mais vous voyez, nous aussi, on a fait disparaître des choses.
Supprimer les queues.
Ça va plus.
Débat dans Estelle Midi.
Les petites ou les grosses.
A-t-on besoin des queues?
Moi, je trouve que ça va plus vite. Et je trouve que tu vas vite à l'essentiel.
Avec les queues?
Les queues, c'est essentiel.
Manifestement non, parce que tu comprends ce que je dis. Alors, ensuite, un Français sur trois prêt à déménager à cause du dérèglement climatique. Est-ce que vous commencez à y songer? Est-ce que vous commencez à vous dire qu'il vaudrait mieux déménager avec un appart avec clim ou aller en Bretagne, en Normandie ou en Bretagne?
Aménager sa cave pour dormir. Ça, c'est une idée.
Emmanuel, il dort dans sa cave et
Charles
d'autres
Consigny, qui cherche des investissements, une idée de création d'entreprise lucrative.
Caviste.
Et puis, le tu préfères.
Ah.
Tu préfères aller au supermarché seul ou à deux?
Seul.
Seul.
Ah bah non.
Bah quoi non?
Bah moi je suis marié depuis une semaine, si j'y vais là c'est fini là.
Donc j'y vais seul. C'est sympa de faire les courses à deux,
tu vas jamais au supermarché.
Si, toujours je vais au supermarché généralement seul.
Seul, beaucoup plus efficace.
Je suis assez égoïste donc j'achète tout ce que je veux.
Bah voilà, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Joël?
Ah non, seul c'est mieux, ça va plus vite, tu dépenses moins parce qu'il y a toujours un qui. Ah tiens, si je prenais ça.
Ah, oui.
Non, c'est droit au but. De toute façon, je me fais livrer la plupart du temps donc je fais mes petites courses toute seule.
Sur mon ordinateur.
Joël se fait livrer par la grande épicerie du bon marché.
Oh oui, bien sûr.
Les courses seules ou à deux, des matchs Estelle Denis jusqu'à 15h. Rendez-vous au 32-16.